Bonjour, bon vendredi. Nous sommes à l'édition du 20 avril. Alors, je souhaite le bonjour à tout le monde qui nous écoute. Et en studio, bonjour Francine.
Bonjour Hélène, vous allez bien cette semaine?
Ah, à ravir, j'ai le feu
d'être alors là, on est plus près du printemps que la semaine dernière quand même.
Oui, il paraît qu'il va arriver demain.
Bon!
On va aller me promener dehors pour le voir arriver. Bonjour Catherine.
Bonjour Hélène.
Ça va bien?
Oui, ça va, merci.
Good. Et à la régie, nous avons M. Mathieu. Où est-il? Bonjour.
Bonjour.
Il se cherche lui-même. Hélène Bédard au micro. Alors voilà, nous allons vous présenter quelques sujets pour ce matin. Francine.
Alors cette semaine, j'attaque Québec Science de mai 2018. Je vais commencer par un article de Normand Baillargeon, évidemment, qui nous invite toujours à réfléchir. Et je vais vous présenter aussi Mona Nemer, qui est la scientifique en chef canadienne.
Ah! Toujours aussi intéressant. Merci. Catherine.
Je poursuis le début de cette lecture de Nouveaux projets, ce magazine qui sort trois fois par année, qui nous parle de nos modes de vie. Et ils ont un spécial cette fois-ci sur la qualité de vie. Qu'est-ce que la qualité de vie? Et je vais commencer ce dossier très intéressant avec un article de Alain Desnoux.
Et en plus, elle lit, notre Catherine, elle lit tout ça sur sa tablette. Fantastique.
C'est nouveau, c'est un premier essai que je fais avec okay. La tablette. On va voir comment ça va se passer. La dernière fois, ça avait quand même été
très bien.
Alors, on essaie, hein? Les technologies, parce qu'on a quelqu'un spécialiste dans les technologies parmi l'équipe, alors...
Oui, qui lit sur du papier.
Alors voilà, après la courte pause, nous vous revenons avec nos sujets. À tout de suite. Alors, nous revoilà, Hélène Bédard, mais moi, j'ai oublié complètement de vous mentionner les sujets que je vais aborder. Je vais aborder quelques sujets, évidemment, qui ont trait à la partie senior de mon existence et de l'existence des autres seniors. Je vais commencer avec une lettre à ma génération. Un texte de Karel Mera, et qui est paru dans La Presse, l'édition Internet. Paru le 15 avril, donc c'est cette semaine. Il est temps de rayer ce X et de nous donner un véritable nom. On nous a appelé X, la génération sans nom, née dans l'ombre du baby-boomer. Nous avons assisté à la fin des 30 glorieuses, les trois décennies de prospérité qui ont suivi la guerre mondiale. Le No Future du mouvement punk s'adressait à nous. Génération sans avenir, sans rêve, assommée par le cynisme, quelques années à peine après le grand vent d'espoir des années 60. À 15 ans, le sida a marqué notre entrée dans la vie sexuelle. À 20 ans, nous avons vu la chute du mur de Berlin et l'arrivée de l'Internet. Notre innocence a été fauchée avec 14 de nos sœurs à Polytechnique. Nous avons vu tomber Cobain qui hurlait notre rage. Nous avons porté le grand vent d'espoir de Rio, fondé des centaines de groupes écologistes, lancé le mouvement altermondialiste, affronté les gaz lacrymogènes et les balles de caoutchouc dans les rues de Québec au sommet des Amériques en 2001. Nous avons vu le Québec devenir un pays pendant quelques petites minutes, un soir d'octobre 1995. À l'aube de la trentaine, notre monde a basculé par un beau lundi matin dans l'horreur, la paranoïa et la haine alors que les tours jumelles s'effondraient. Rien ne fut pareil par la suite. Nous ne sommes pas indifférents et nous ne sommes pas différents de toutes les générations avant nous. Chacun porte en elle le poids de l'histoire, du changement, les espoirs et les épreuves qui s'abattent sur elle comme les vagues sur une falaise. Chacun laisse son héritage. Pour nos grands-parents, ce fut la Grande Dépression et la guerre. Pour nos parents, c'était la Révolution sexuelle et la Révolution tranquille. Comment se souviendra-t-on de nous? Nous avons passé la quarantaine, quelque part entre la garderie, l'entraînement de soccer et le Costco. Notre capacité de rêver le monde autrement s'est effritée. Nous avons poursuivi inlassablement un rêve américain qui nous a été présenté comme l'unique mesure de notre succès, quitte à devenir la génération la plus endettée de l'histoire. Plusieurs d'entre nous vivent d'une paye à l'autre, dans une maison trop grande qu'on n'arrive même pas à meubler, même pas avec nos rêves. La revue Actualité nous apprenait il y a quelques mois que nous sommes en colère, un presto prêt à exploser, après tant d'années marquées par la corruption, l'austérité, l'endettement, la colère et la peur. Il est facile de succomber au cynisme et tentant de donner un gros coup de pied dans le nid de guêpes. Le cynisme a toujours été notre arme de prédilection pour nous protéger d'un sentiment d'impuissance qui est inscrit dans notre ADN. Mais ce cynisme ne sera pas suffisant pour changer véritablement la donne. On ne change pas nos conditions de vie en changeant la couleur du parti qui nous gouverne ou en réclamant des chèques de politiciens qui cognent à notre porte. On ne peut changer les choses qu'en prenant nos responsabilités. Alors que notre génération arrive aux commandes, la seule question qui importe vraiment est la suivante. Voulons-nous subir le monde en nous désengageant ou contribuer à le créer en prenant enfin l'initiative? La presse faisait récemment un retour sur les idées que nous avons portées au tournant du millénaire. Des idées neuves, créatives, intelligentes, pragmatiques. Quelque part entre les baby-boomers et les millénaux, nous sommes le chaînon manquant. La génération qui n'a pas encore fait sa marque. Il y a peut-être quelque chose comme une grande génération en nous, même si plusieurs ont depuis longtemps fait une croix sur nous. Il est temps de rayer ce X et de donner un véritable nom à notre génération. C'était donc un texte de Karel Méran, directeur général pour le Québec de la Fondation David Suzuki, paru le 15 avril dans la presse d'édition Internet. Nous poursuivons nos lectures avec Francine Frangin.
Merci, Hélène. Normand Baillargeon, le philosophe, tient la chronique « Je doute, donc je suis » dans le Québec Science. En mai, dans l'édition de mai 2018, il nous parle de démêler le vrai du faux. Nous sommes entrés de plein fouet dans l'ère de la post-vérité, où les émotions comptent plus que les faits. Comment une société peut-elle ainsi se laisser berner? Voilà la question à laquelle il tente de répondre. Depuis le Brexit et l'élection de Donald Trump, on parle de la post-vérité, cette idée selon laquelle la vérité serait inaccessible ou moins importante que l'on pensait. Ce mot est passé si rapidement dans l'usage que le dictionnaire Oxford en a fait son mot de l'année en 2016. Loin d'être la saveur du jour, ce néologisme décrit une tendance lourde qui, selon moi, joue sur deux plans. Le premier est un certain état de la conversation démocratique caractérisé par des formes de propagande, de travestissement ou d'occultation intéressée de la vérité qui se propagent selon des canaux inédits, à commencer par les réseaux sociaux. Le deuxième est notre difficulté individuelle et collective à s'y retrouver et à maintenir cet esprit critique indispensable à la recherche de la vérité. On ne saurait ramener un phénomène aussi complexe à quelque cause. Je me risquerai toutefois à en identifier quelques-unes. Les institutions dominantes n'ont pas attendu notre époque pour tenter d'orienter l'opinion publique à leur avantage. Et en ce sens, l'industrie des relations publiques et la concentration des médias entre les mains du privé jouent depuis longtemps un rôle important et indéniable, quoique variable selon les pays. La fabrication du consentement, pour reprendre les mots de Noam Chomsky, qui est un linguiste américain, prend une nouvelle tournure avec les médias sociaux. Manipulation d'images ou de vidéos, attribution de fausses citations avec portraits d'auteurs allégués, propagation de théories de la conspiration et de pseudosciences, et contenu commandité dont le caractère tendancieux est occulté. Face à tout cela, on aura souvent du mal à démêler le vrai du faux. D'autant que se créent ainsi des chambres d'écho dans lesquelles le faux, le plus ou moins faux, et l'invraisemblable se répercutent et s'amplifient. Tout comme la vérité, l'expertise scientifique y est mise à mal, et cela explique en partie comment et pourquoi se propagent les croyances reconnues comme fausses, voire dangereuses. C'est notamment le cas des doutes portant sur l'efficacité des vaccins, sur le réchauffement climatique anthropique, sur l'évolution et la condamnation des OGM. En principe, l'expertise scientifique, appuyée par une bonne culture et des médias consciencieux, devrait contrer les effets déplorables de tous ces facteurs. Ce n'est pas toujours le cas. Bien pis, le phénomène est alimenté par les effets pervers de la commercialisation et de la privatisation de la recherche, de même que les discours des think tanks qui véhiculent des dogmes, des idées, des positions qui ne sont pas validées scientifiquement. Il ne faudrait pas non plus négliger l'influence grandissante du postmodernisme. Il s'agit d'un courant de pensée qui, en résumé, suppose que la vérité objective n'existe pas, que tout est affaire de perspective. Chaque point de vue est ainsi valable. La science elle-même, a-t-on été jusqu'à dire, ne donnerait qu'un aperçu sur le monde, pas plus vrai qu'un autre. Sur le plan individuel, comment peut-on se laisser berner par ces stratagèmes? C'est bien souvent en raison du biais de confirmation, cette forme de pensée sélective qui nous pousse à ne considérer que les informations qui confirment nos croyances et, inversement, à accorder moins de poids à celles qui les contredisent. Laissez-moi vous raconter une célèbre expérience de psychologie au cours de laquelle on demande au sujet de résoudre un problème par des transvasements de liquide. À l'aide d'un certain nombre de récipients de divers volumes, ils doivent mesurer une certaine quantité de liquide qui ne correspond pas à la taille des contenants. Par exemple, vous disposez d'un récipient d'une contenance de 5 litres et d'un autre de 3 litres, et vous devez mesurer 4 litres d'eau. Pour y parvenir, il faut faire 3 transvasements, en vidant d'abord le contenu de 5 litres dans celui de 3 litres, afin qu'il en reste 2 litres. On vide le contenant de 3 litres pour y verser les 2 litres restants. On remplit le contenant de 5 litres et on verse dans le contenant de 3 litres jusqu'à ce que celui-ci soit plein. Il reste alors 4 litres dans le grand contenant. On présente ensuite au sujet un nouveau problème, toujours résolu par 3 transvasements. Après quelques épreuves ainsi résolues, on les met devant une énigme qui se résout en un seul transvasement. Soudainement, les participants sont incapables de trouver la solution. Cet effet, appelé Einstellung, est connu depuis longtemps. Il éclaire un des mécanismes du biais de confirmation. Lorsqu'on adopte une manière de penser face à une question ou à un problème, on devient en quelque sorte aveugle aux autres interprétations et solutions possibles. On a même démontré, en étudiant les mouvements oculaires des experts aux échecs, que ceux-ci deviennent littéralement aveugles à une solution plus efficace, mais autre que celle à laquelle ils sont habitués. Tout cela suggère du travail pour bien des gens. Au philosophe, celui de rappeler l'existence d'une vérité objective, indépendante de nous, de même que son importance à la fois cognitive et politique. Pour les vulgarisateurs, les scientifiques et les journalistes, celui d'alimenter et d'enrichir la conversation démocratique. Pour les éducateurs, celui de bien transmettre cette culture scientifique dont le citoyen a cruellement besoin. Enfin, pour chacun de nous appelé à prendre part au débat, d'écouter divers points de vue, en faisant preuve d'ouverture et de modestie, le but étant de pratiquer cette pensée critique faite de savoir, certes, mais aussi d'habileté et d'attitude, à la fois intellectuelle et morale. L'enjeu est de taille parce que la référence normative à la vérité est une condition nécessaire au bon fonctionnement de nos institutions, depuis l'éducation jusqu'à la représentation politique, en passant par la science, la médecine, l'expertise et d'autres encore. Normand Baillargeon, je doute donc je suis, démêler le vrai du faux, dans Québec Science, livraison de mai 2018.
I'm not afraid. Danny Placard et sa chanson « Payer tes billes ».
Oh, payer tes billes. C'est bon. Il s'appelait comment? Danny?
Danny Placard.
Danny Placard, eh payer oui. tes billes. Oui. Et vraiment, là, il y a une juxtaposition de mots. Là, c'est intéressant. Oui, alors voilà, de retour en studio avec nos commentaires. Je laisse la parole à Catherine Brunet.
Merci, Hélène. Alors, je commence ce dossier qui s'appelle « Qualité de vie ». Pour réfléchir peut-être à notre qualité de vie et comment qu'on paye nos billes, pour reprendre les mots de Danny Placard. Alors, c'est un article de Alain Deneau. Le produit intérieur brut mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue, disait Robert Kennedy, quelques semaines avant sa mort, en 1968. Apparu la décennie suivante, le concept de qualité de vie devait offrir une alternative au discours économique. Est-ce vraiment le cas? Quand, de gauche à droite, un écologiste en vogue comme Aymeric Caron, un néolibéral repenti en Joseph Stiglitz, ou encore un militant conservateur tel Henri Guinaud se présentait comme un fervent adversaire du produit intérieur brut, PIB, on comprend que cet indicateur a clairement cessé de faire l'unanimité. Le PIB apparaît aujourd'hui comme un instrument dépassé, incapable de mesurer la richesse réelle des collectivités ni de considérer les états de conscience favorisant le bonheur et l'espoir. Depuis le 18e siècle, François Quesnay, Adam Smith, Thomas Robertson Malthus, Frédéric Hayek, Milton Friedman et combien d'autres à leur suite ont relégué hors champ les vocations dites « non productives ». N'était digne de passer pour objet économique que ce qui se laissait compter. Ainsi, la nouvelle science économique a-t-elle assis son autorité jusqu'à nous? Cela a duré d'autant plus qu'on a affiné les méthodes pour faire valoir ce principe intéressé. Ce sont encore aujourd'hui les cours boursiers, les statistiques sur le chômage ou les taux d'intérêt qui, en plus de ce PIB, servent d'indicateurs pour traduire ce qu'il en est des prétendues morales des ménages, humeur du marché et santé économique des peuples. Cela a trop duré. Ont été établis de nouveaux indicateurs qui prétendaient redonner leurs droits à des réalités ayant une pertinence certaine pour nous, bien qu'elles échappent aux normes comptables. Pour ainsi que des expressions telles que « qualité de vie » sont apparues dans le décor intellectuel du dernier tiers du 20e siècle, la belle affaire. Les classements de référence qui accordent une place à la question de la qualité de vie se sont accumulés. Ils se baptisent « The World Health Organization Quality of Life » de développement humain, Better Life Index ou Social Progress Index, et porte la signature respective de l'Organisation mondiale de la santé et du Programme des Nations unies pour le développement, rattachés tous deux à l'ONU, de l'Organisation de coopération et de développement économique ou de l'ONG libérale sociale progressif impérialiste. La méthode type de ces indices consiste à agréger à des considérations économétriques implicites ou explicites, l'importance des revenus par exemple, le pouvoir d'achat, l'inflation, un certain nombre de critères réputés intangibles, droit de vote, droit de la personne, santé, aménagement du territoire, et ce, pour quadriller ce qu'il en est d'un cadre général de vie eu égard à des considérations sensibles, psychologiques, civiles et éthiques. En ce qui concerne par exemple le Social Progress Index, l'entreprise intellectuelle consiste à subdiviser les thèmes en trois grandes catégories. Les besoins fondamentaux, les assises de bien-être et l'égalité des chances. D'abord, est-on en situation de se nourrir, de se loger, de se soigner et ce, en toute sécurité? Ensuite, peut-on se doter de savoirs rudimentaires, s'informer sur les enjeux publics, vivre dans les lieux sains et se sentir globalement bien? Enfin, croit-on que le cadre dans lequel on se trouve suscite juridiquement et sociologiquement des manifestations de liberté, un sentiment d'inclusion et des gages d'ouverture, et qu'il permet de mener des études poussées? Un faisceau d'indicateurs et de données traités de manière similaire dont chaque pays mène à l'établissement d'un classement. Au mieux, les institutions publiques qui produisent des classements se restreignent aux faibles marges de manœuvre que les États membres, acquis aux intérêts du grand capital, leur concèdent. Au pire, ce sont des organisations indépendantes qui font de l'établissement de ces paramètres leur chou gras. Pour elle, le PIB se veut moins le symptôme d'une compréhension étriquée du monde d'un ensemble de données, simplement incomplète. Le slogan de l'ONG qui produit le Social Progress Index se lit donc ainsi. Our vision is a world in which social progress sits alongside economic prosperity as a measure of development. Notre vision est celle d'un monde où le progrès social accompagne la prospérité économique comme mesure du développement. On nous enferme encore et toujours dans l'approche réformiste d'un social-démocratie épuisé qui s'est affairé au fil du 20e siècle à contenir le capital pour finalement mieux l'accompagner et le faire se perdurer. Il s'agit sinon d'une stratégie de gouvernance par laquelle subordonner la vie et ses qualités à un art libéral de la gestion inspiré du domaine privé, en vertu duquel tout se réduit à des données proprement admissibles par des parties prenantes. La qualité de vie se voit désormais pondérée, jauchée, brevetée et commercialisée. Elle se présente telle une marchandise comme une autre auprès d'une importante clientèle institutionnelle. L'ONG vend aux pouvoirs publics et privés d'Occident des informations empiriques vantant le cadre idéal dans lequel ils développent leur activité prospère. Elle se garde bien d'évoquer leurs responsabilités en ce qui concerne la pollution, par exemple, la destruction, la corruption et les guerres qui mènent sans dessus-dessous les pays du Sud et de l'Est, figurant fatalement au bas des tableaux. Le client a toujours raison. L'ONG permet ainsi au capitalisme de continuer sur sa lancée chiffrée en intégrant des critères nouveaux à ses diagrammes, graphiques et totaux de façon à prémunir de toute critique. Car quel signal envoient ces classements aux citoyens? Ils les bercent de l'illusion qu'ils sont bien mieux là où ils se trouvent qu'ailleurs, malgré des décennies de compression budgétaire dans les programmes sociaux, de stagnation des revenus et la réduction spectaculaire des processus électoraux à de véritables cirques. Les éponges idéologiques globent le message, succombant à la manœuvre, en témoignant rédacteur régulier du site fourre-tout-topito.com qui commente le palmarès du Social Progress Index 2017 tel que le souhaite l'ONG. Ça a l'air cool, le Danemark. En Suède, ils ont des séries cool. Ou, je vais déménager en Nouvelle-Zélande. Mais avant une petite laine quand même, mais avec une petite laine quand même. Écrit-il, en agrémentant ses descriptions d'images d'Épinal, un fjord au coucher de soleil ici, de petites maisons colorées là. L'exemple est moins superficiel qu'il en a l'air. En présentant les pays comme des marchandises sur un étalage, il suit le mouvement rhétorique des producteurs d'indices. Les derniers sceptiques quant aux critères compatibles de la notion officielle de qualité de vie à l'idéologie libérale pourront considérer la teneur symbolique de l'ouvrage méthodique du Social Progress Index. Il figure une femme hindoue portant sous le bras un bouquet de coriandre tandis qu'elle entretient gaiement une conversation grâce à son téléphone portable. Au premier coup d'œil, on croirait reconnaître l'écologiste Vandana Shiva, soudainement converti à l'économie de marché. Du marketing en un peu plus occidental, foin de toutes les considérations sur le consumérisme irresponsable entretenu par notre mode de vie, sur l'obsolescence programmée voulue par l'industrie des télécommunications, sur l'extractivisme exalté des entreprises minières et sur le travail des enfants qui lui est attribué. La qualité de vie regarde le bonheur de consommer. Je vais continuer cet article de qualité de vie un peu après la pause.
Eh bien, voilà, avant d'aller à la pause, j'aimerais vous lire un tout petit texte que j'ai trouvé ici. Ça s'appelle « Cajoler les bébés pour briser les gelements ». C'était publié à la fin mars 2018 dans un texte de Radio-Canada. Alors, depuis janvier, des mamans se promènent d'une résidence de personnes âgées à l'autre avec leur bébé dans le cadre d'un projet pilote. Ça s'appelle le Café des générations. Le but? Animer la vie des aînés et briser leur propre isolement. Le projet fait plusieurs heureux à la résidence Quartier des Érables située à Dolbeau-Mistassini. Les aînés peuvent donc bercer les bambins et s'amuser avec eux. C'est vraiment plaisant. C'est pas souvent que ça nous arrive. Avec l'exode des jeunes, des fois, les grands-parents, les enfants, les petits-enfants sont partis à l'extérieur. Ils ont moins l'occasion de se voir et de voir une nouvelle génération qui arrive. Ça permet vraiment de voir grandir les petits, décrit l'une des instigatrices du projet. Les aînés ne sont pas les seuls à profiter de cet échange intergénérationnel. Les parents apprécient le contact avec les personnes âgées. On sait qu'il y a de la solitude, des fois, envers les aînés et des fois aussi chez les mamans en congé de maternité. Dans mon cas, ça me permettrait aussi de sortir de chez moi, ajoute Josée Deschênes, instigatrice du projet. Présentement, ces rencontres ont lieu une fois par mois. L'organisme Par Ensemble, qui chapeaute le projet, aimerait doubler le nombre de rendez-vous. L'organisme est donc à la recherche de financement pour assurer la pérennité du projet. Alors voilà, restez avec nous. On fait une courte pause. La suite de l'émission Les Voix de Service Magazine se poursuit après la pause.
La lune était en capricorne et le ciel était noir cancer. On a attendu qu'il s'endorme pour partir rejoindre la mer. On a pris l'urne par les cornes et sans regarder en arrière, j'ai posé dans la salicorne les cendres de mon père. T'aurais jamais dû partir, j'aurais dû te retenir, Maya. On s'était entendu. Peu de cris, peu de pleurs, personne part avant l'heure, Maya. Pourquoi l'avoir rompu? Le pacte de sang qu'on a signé adolescent, tous pour eux et droit devant. Sans toi, sans Diogène, plus d'air, plus d'oxygène, Maya. C'est plus comme avant. Pourquoi tu viens?
Maya, pour que tu te reposes. Elle a mis des vermisseaux partout dans la taille, Gamma Ia, pour que tu te
Lydia Kipinski, nouveauté Maya.
Bien, rebonjour. Après cette courte pause, nous poursuivons nos lectures avec Francine Forget.
La rédactrice en chef de Québec Science, Marie Lambert-Chan, rencontre Mona Nemer, qui est la scientifique en chef du Canada. Alors, je vous livre de larges extraits de cette entrevue qui s'intitule « Retour à la case savoir ». La biochimiste Mona Nemer, je m'excuse, a été nommée scientifique en chef du Canada en octobre 2017, un poste à reconstruire puisqu'il a été aboli sous le gouvernement Harper. La scientifique en chef du Canada, Mona Nemer, était attendue avec impatience sur la colline parlementaire. Plus de 1000 messages de soutien lui sont parvenus à la suite de l'annonce de sa nomination. Leurs auteurs, des chercheurs et des citoyens heureux que le premier ministre Justin Trudeau ait tenu sa promesse de campagne électorale. Recréer le poste de scientifique en chef aboli en 2008 par les conservateurs. Accueillie avec tambour et trompette, Mona Nemer doit maintenant relever les défis de taille, entre autres rebâtir les ponts entre les scientifiques et le gouvernement et s'assurer que les futures politiques publiques seront fondées sur les données probantes. Rien toutefois pour décourager cette biochimiste bardée de prix qui n'en est pas à son premier combat. À l'âge de 17 ans, alors qu'elle étudiait dans un collège pour filles dans son Liban natal, elle a milité avec ses consœurs pour avoir accès à un programme scientifique. Et elles l'ont obtenu. 100 jours et des poussières après son entrée en poste, Mona Nemer dresse un premier bilan. La question de Québec Science, en quoi consiste le rôle de scientifique en chef? J'offre des conseils d'ordre scientifique au gouvernement, au premier ministre, à la ministre de la Science et aux membres du cabinet. J'examine les processus pour faire en sorte que les données probantes soient prises en considération dans les décisions politiques. D'autre part, je veille à ce que le gouvernement soutienne l'avancement des connaissances tant dans les laboratoires fédéraux qu'à l'extérieur du gouvernement, par exemple, dans les universités. Enfin, je compte encourager les jeunes à embrasser des carrières scientifiques et aider le public à comprendre les fondements scientifiques derrière les politiques publiques et les grands enjeux sociaux. Question. Le Canada n'avait plus de scientifique en chef depuis 2008. N'ayant aucun prédécesseur immédiat, vers qui vous êtes-vous tourné pour mieux comprendre vos nouvelles fonctions? J'ai eu deux emplois où j'ai dû apprendre sur le tas. Maire et scientifique en chef. Heureusement, plusieurs pays et juridictions ont leurs scientifiques en chef sur lesquels j'ai pu m'appuyer, notamment celui du Québec, Rémi Quirion. Cette collégialité est une bonne chose pour la planète et le Canada, car on peut faire beaucoup de chemin dans nos relations bilatérales et multilatérales par l'entremise de la diplomatie scientifique. Quelles sont vos priorités? Avant tout, j'aimerais démontrer la valeur ajoutée que représente un scientifique en chef pour que ce poste devienne permanent. Par ailleurs, deux dossiers me sont chers. Le premier est le renforcement de la culture scientifique, un élément essentiel pour la santé de notre démocratie. Près de la moitié de la population canadienne ne maîtrise pas suffisamment la science pour comprendre et interpréter les résultats de recherche. Si nous voulons que les politiques publiques soient davantage fondées sur la science, nous devons aussi nous assurer que le grand public puisse évaluer si le gouvernement utilise correctement ou non les données probantes. Le second dossier concerne la création de passerelles entre les scientifiques fédéraux, universitaires et issus du privé. La science canadienne dans son ensemble doit apprendre à mieux communiquer. Il faut éviter le travail en silo qui freine l'innovation. Historiquement, les grandes découvertes se sont faites à l'intersection des disciplines. Vous souhaitez rebâtir des ponts avec les scientifiques fédéraux bâillonnés sous le gouvernement Harper. Un sondage mené par l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, l'IPFPC, a révélé en février dernier que la moitié des chercheurs du gouvernement interrogés se disent toujours incapables de parler librement de leurs travaux aux médias. Comment cela influencera-t-il vos interventions auprès des chercheurs? Alors la réponse de Mme Nemer, ces résultats m'ont déçu et attristé. J'avais déjà remarqué ces failles après avoir discuté avec des scientifiques de différents ministères. Ce sondage indique qu'il faut que je poursuive le travail que j'ai déjà entamé, c'est-à-dire élaborer des politiques et des lignes directrices pan-gouvernementales sur l'intégrité scientifique avec l'IPFPC et le Conseil du Trésor, de même que faire des recommandations pour renforcer la capacité des scientifiques à communiquer leurs travaux librement. Dans le sondage, on peut lire ce commentaire révélateur émis par un chercheur. Un certain groupe de gestionnaires reste très à l'aise avec les règles rigides du gouvernement Harper et s'y accroche. C'est malheureusement le cas. Le gouvernement et la science sont deux mondes qui doivent apprendre à travailler ensemble. Je suis en discussion avec l'École de la fonction publique du Canada pour développer des programmes destinés aux scientifiques. Il n'y a rien pour eux à l'heure actuelle et des programmes de sensibilisation pour les gestionnaires. On leur expliquerait, par exemple, ce que veut dire une approche fondée sur les données probantes. Une bonne façon d'infuser davantage de science dans le gouvernement serait aussi de créer un bureau des conseillers aux scientifiques en chef. Ces conseillers, répartis dans les différents ministères, s'assureraient que les politiques tiennent compte des dernières études pour éviter les décisions influencées par de fausses croyances ou la partisanerie. C'est ce que suggéraient récemment des chercheurs canadiens qui citaient en exemple des initiatives semblables au Royaume-Uni et en Australie. Qu'en pensez-vous? C'est une idée que j'entends explorer sérieusement, d'autant plus que des ministères m'ont déjà dit qu'ils y seraient favorables. Et cela ne toucherait pas que les ministères à vocation scientifique, puisque la science est désormais partout, qu'il s'agisse des transports, de l'armée, des enjeux autochtones, des relations internationales, etc. Votre rôle est non partisan et vous n'avez pas de pouvoir décisionnel. Comment réagiriez-vous si le gouvernement ne tenait pas compte de vos conseils, voire allait à leur encontre? Bien sûr que je serais déçu si cela survenait. Le plus décevant serait de voir le gouvernement ignorer totalement les faits présentés. Mais si en raison de délais serrés ou d'un manque de ressources, on m'expliquait qu'on ne peut mettre en application qu'une partie de mes conseils, je l'accepterais. Voilà ce que je préférerais. Un compromis éclairé et transparent. C'est ça la démocratie. Alors un entretien de Marie Lambert-Chan avec mon animaire, scientifique en chef du Canada, publié dans Québec Science, mai 2018.
Voilà en studio. Pour ma part, Hélène Bédard, je vais vous lire une chronique, une belle chronique écrite par Mylène Moisan dans Le Soleil, le 17 avril 2018. Et ça s'intitule comme suit « 306 fois, je t'aime ». Quand on passe 60 ans avec la même personne et qu'elle s'en va, forcément, elle s'en va pas vraiment. Comme Pauline, qui est partie. Clément, lui, se rappelle encore la première fois qu'il l'a vue dans le Vieux-Québec. Je marchais avec des amis, j'ai remarqué une jeune femme de l'autre côté de la rue, petite jupe grise, veston bleu marin, avec un beau petit chapeau. J'ai dit à mes chums, celle-là, je vais la marier. Il l'a revue. Quelques mois plus tard, j'étais à la patinoire, je regardais les gens patiner, quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. Et hop, c'était elle. Elle était la voisine d'une amie, elle m'avait vue, elle m'avait remarqué. Ils se sont dit oui. Plus tard, le 2 octobre 1954. Ils ont eu 5 beaux enfants, 4 bonnes filles. J'étais heureux comme ça se peut pas. C'est grâce à elle si je suis comme je suis aujourd'hui. J'ai eu une femme extraordinaire. Je sais pas comment ils ont fait pour la faire. On s'est aimés, mais tellement aimés. Ils étaient partis pour s'aimer comme ça longtemps encore, mais Pauline est tombée malade. Elle est entrée une dernière fois à l'hôpital en 2015. Elle n'est pas ressortie. À part une fois pour fêter Noël chez elle avec sa famille. J'allais tout le temps la voir. J'y allais 2 fois, 3 fois par jour. Elle pleurait souvent, je la serrais dans mes bras. Des fois, je me réveillais la nuit, j'allais à l'hôpital juste pour la voir dormir. Un jour de janvier, Pauline a tendu un paquet à Clément, une boîte emballée d'un papier brun, sans chou ni ruban. Je ne l'ai pas déballé tout de suite. Je l'ai amené à la maison, je l'ai déposé sur une table au sous-sol, je l'ai laissé là. Durant la nuit, je me suis réveillé et j'ai dit « Tiens, le paquet ». Je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Je suis descendu, je l'ai ouvert. Il y avait 2 toiles, 3 ou 4 petits pinceaux, puis quelques tubes de peinture. Clément, il est remonté se coucher. Mais il est redescendu. Je me suis mis à peindre. C'est mystérieux, j'avais jamais peint de ma vie. J'ouvre ça, je donne des petits coups de pinceau, je me mets à peindre et à vouloir faire son visage. Et il a signé « Papy ». Le lendemain matin, dans la lumière du jour, Clément retrouve le portrait de sa femme et décide de le lui apporter à l'hôpital. J'arrive, je lui montre, elle s'est mise à sourire. Je me suis tout de suite rendu m'acheter le matériel qu'il fallait pour en faire d'autres. La nuit suivante, j'ai fait mon visage pour compléter. Le lendemain, elle a encore souri. Clément est devenu un peintre de nuit. Pauline, elle avait toujours hâte de voir ce qu'il avait fait. Elle était heureuse quand je peignais, elle souriait, elle me disait « Qu'est-ce que tu vas encore me faire cette nuit? » Le matin du 1er mars 2016, elle est partie. Clément n'est pas allé à l'hôpital ce jour-là, ni au salon funéraire. Il a voulu garder l'image de sa Pauline vivante. La nuit, il la retrouvait. J'ai continué à peindre. À travers chaque tableau, j'échange avec elle. Je raconte une partie de notre histoire. Je replonge dans un souvenir. Il y a de l'âme dans mes tableaux. C'est un pinceau qui écrit. Mes tableaux parlent d'elle. Ils parlent à elle. Je peux refaire un tableau plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit exactement ce que je veux lui dire. Quand il est satisfait, ça va se coucher. Chaque tableau a un nom. Ensemble. Colère. Néant. Frisson. Bientôt. Heureux. Et repos. Les premiers étaient sombres, les derniers sont lumineux. Il a, en 9 saisons, peint, attention, 306 tableaux de Pauline. De toutes les grandeurs, il en a fait encadrer des dizaines et a accroché ça au mur de sa maison. Une maison à Saint-Nicolas qui est adossée au Cap. Clément était forestier. Quand on est heureux et bien, le temps passe très vite. Je fais mes petites affaires, je passe la balayeuse, je prends ma voiture, je vais faire un tour. Je m'assois dans mon fauteuil, je suis toujours en contact avec la forêt qui est autour. Mon cerveau fonctionne, il est actif, je ne donne même pas le temps de s'arrêter. Je mène une vie simple et heureuse. Parfois, il compose un poème pour Pauline. Il m'en a récité un, le premier qui lui est venu en tête, l'histoire de deux cœurs si liés qu'on ne sait plus lequel est lequel. Je lui compose des poèmes en regardant les arbres par la fenêtre, les feuilles qui tombent. Vous savez, c'est très inspirant l'amour, surtout quand il est immortel. Un très beau texte de Mylène Moisan, recueilli auprès de M. Clément Graville dans le journal Le Soleil, le 17 avril 2018. Suivons nos lectures avec Catherine Brunet.
Je poursuis ce dossier sur la qualité de vie qui nous est offert par Nouveau Projet. C'est un article de Alain Deneau. En fait, c'est plutôt un dossier complet sur la question de la qualité de vie. Avant la pause, je vous ai introduit un peu son texte qui critique les indexations de pays selon leur qualité de vie, qui est en fait très libérale selon la vision de M. Deneau. Et je poursuis son opinion comme suit. Cette qualité de vie ne comporte donc rien de subversif. L'identité des personnes nommées au sein du conseil d'administration et du comité consultatif de Social Progress Imperative parle d'elle-même. Des membres de la Fondation Rockefeller, des professeurs d'école de commerce, des gestionnaires professionnels de fonds privés et autres spécialistes de l'entrepreneuriat social. Parmi les principaux commanditaires de la prétendue entreprise de déconstruction du PIB et autres paramètres traditionnels de l'économie se trouve Deloitte, la plus grande firme comptable de vérification et de conseil au monde. Si les résultats des complexes calculs en jeu offrent un portrait des situations nationales plus circonstanciées et détaillées que ce que permet l'intuition, on ne s'éloigne jamais toutefois de la fameuse La Palissade d'Yvon Deschamps. Vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade. Ces indices nous apprennent tout au plus qu'on vit mieux en pays riche qu'en pays pauvre, là où le territoire est aménagé, là où ce n'est guère le cas, dans un État où prévalent des services sociaux, que là où la population en est privée. Hormis quelques paradoxes qui ne font tomber personne de sa chaise, l'Arabie saoudite, les États-Unis ou la Chine sont des pays où la concentration d'actifs ne coïncide pas tout à fait avec le bien-être de l'ensemble de la population. Le classement auquel on a droit recoupe sensiblement celui des indicateurs traditionnels dont Social Progress Imperative prétend pourtant explicitement se distinguer. Cela confirme qu'aucun indice ne peut se substituer à une analyse critique, vraiment qualitative celle-ci, quoique moins instrumentale. À quoi d'autre pourrait de toute façon servir un indicateur ou un indice? Le discours libéral sur cette qualité de vie se laisse essentiellement conjuguer à la forme passive. Il se caractérise précisément par l'absence hautement problématique de sujets politiques, de citoyens et d'acteurs publics. Les pouvoirs institués se montrent incapables de penser les marges impondérables qui permettent d'agir politique. Le militantisme, l'initiative civique et les insurrections, ceux-là même qui ont rendu possibles les avancées sociales qu'on se contente de présenter froidement comme des acquis ou de simples variables dans ces rapports. Aucune réflexion critique ne cherche à expliquer pourquoi, d'un point de vue politique, industriel et financier, certains pays obtiennent des résultats médiocres, voire mauvais, et d'autres non. Aucun raisonnement logique ne vient faire de lien sur les vases communicants expliquant que les uns, pays qualifiés, pillent et dominent abusivement les autres. Enfin, on n'attribue à aucun mouvement syndical, à aucune mouvance politique, à aucune grève, à aucune série de contestations ni à quelque soulèvement que ce soit les institutions démocratiques, avantages sociaux et services publics chèrement acquis qui participent pourtant officiellement à la définition de cette qualité de vie. Conséquemment, rien n'est fait pour penser l'organisation politique des dominés, et encore moins pour évoquer les bienfaits d'une saine colère et le génie de la dissidence ayant permis d'y arriver. Agir et compter politiquement ne fait étrangement pas partie de la qualité de vie. Bien entendu, aucun signataire de rapport empirique sur cet enjeu ne l'exprimera comme tel. Dans l'optique tout aussi positive psychologiquement que positivisme épistémologiquement, on prétendra vouloir outiller les acteurs de la société civique afin qu'ils sachent améliorer le sort des populations concernées. Mais on débite le tout dans une langue gestionnaire et managériale qui ne parvient nullement à dissimuler son ineptie. L'index vise à être un outil pratique qui aide les dirigeants et les praticiens du gouvernement, des entreprises, de la société civile, à mettre en œuvre des politiques et des programmes qui accéléreront le progrès social. Ce qu'on plaît à écrire le Social Progressive Imperative. C'est évidemment donné là dans un infantilisme de type Boy Scout, dont la rhétorique sur la gouvernance a le secret. On freine d'ignorer que c'est en connaissance de cause que les oligopoles à la tête des régimes inégaux privent des populations entières de données publiques et donc d'institutions et de services voués à leur bien-être, et ce, à leur profit, eux, qui croulent sous les capitaux et les objets de luxe. Deloitte, qui finance les recherches aux fins de la population de cet indice, est aussi au cœur d'une cynique et plus confidentielle documentation à destination des high net worth individuals, euphémisme des institutions de pouvoir pour désigner les millionnaires jouissant de torts à la mondialisation capitaliste. Cette aide et cet outillage fournis à de puissants léviathans, spoliant les peuples et épuisant ce qu'il leur reste de patrimoine économique, ne sont rien de moins qu'insultants pour l'intelligence. Revenons donc à l'expression elle-même, qualité de vie. Ne suppose-t-on pas qu'il s'agit de qualité de vie, de lui conférer seul comme aux autres des qualités? Quel que soit le dictionnaire que l'on consultera, le fait de qualité plus que la qualité comme telle est une activité essentiellement réalisée par des sujets. Or, les indices nous fournissent sous la forme d'un spectacle, une qualité de vie en réalité dévitalisée, séparée de tous, sans processus de qualification de la part de citoyens. Il leur faudra accepter telle qu'elle et considérer comme qualité ce que des experts patentés qu'une ONG de Washington ont porturé à ce titre. Mais comment donc une telle opération qualifiante pourrait-elle faire l'économie de l'activité subjective et de la participation des peuples à la vie institutionnelle et publique? Comment peut-on faire fondre cet ensemble complexe de considérations dans les seuls critères formels de droit de vote et de vague liberté d'expression, comme c'est le cas du Social Progressive Imperative, sinon qu'en réitérant le geste de l'économisme chiffré, à savoir refouler hors champ tout ce qui nuit à l'élaboration de modèles fermés ronds et dogmatiques. Alors voilà, c'est des questions que nous posait Alain Deneau, qui est diplômé en philosophie et est auteur de plusieurs essais, dont Noir Canada et la médiocratie, et De quoi total est-elle la somme? Si ça vous tente d'aller lire un peu plus de ses écrits, je poursuivrai ce dossier sur la qualité de vie un peu moins politique cette fois-ci, la semaine prochaine, sur l'idée générale du bonheur.
Avec Francine Forget.
Vous n'en croirez plus vos yeux. Les images, qu'il s'agisse de photos ou de vidéos, ont longtemps été les gardiennes de la vérité en tant que preuve irréfutable d'un passé dont on n'a pas été témoin. Nous sommes habitués à faire confiance aux images, beaucoup plus qu'aux mots, qu'on peut faire mentir si facilement. Eh bien, il faudra désormais apprendre à se méfier d'elles aussi. Bien sûr, la manipulation d'images a toujours existé. Mais Photoshop, c'était de la petite bière. Depuis peu, des malins du web prennent plaisir à utiliser l'intelligence artificielle pour remplacer le visage des acteurs. Leur cible, Nicolas Cage, qui, après quelques pirouettes technologiques, joue désormais tous les rôles d'Indiana Jones à Lois Lane, le résultat est presque parfait. Amusant, n'est-ce pas? Oui, au début, ça fait rire, mais les dérapages possibles sont évidents est déjà bien présent. Fin 2017, un utilisateur du site Reddit s'est fait connaître en publiant des vidéos où il a remplacé les visages d'actrices porno avec ceux de vedettes comme Taylor Swift, Scarlett Johansson ou Emma Watson. Qu'arrivera-t-il lorsque des citoyens seront piégés par cette supercherie? Ne faut-il pas craindre que l'outil devienne un redoutable vecteur d'intimidation pour nous, pour nos jeunes? Et que dire de la fabrication de fausses nouvelles, vidéos à l'appui? Sans compter que pour l'instant, il existe peu de défenses légales contre ce genre de stratagème. Le magazine Wired notait en début d'année qu'aux États-Unis, coller le visage de quelqu'un sur le corps d'une actrice porno ne relève pas d'une atteinte à la vie privée. Or, c'est le principal levier légal pour combattre le revenge porn, cette pratique consistant à diffuser du contenu sexuellement explicite sans le consentement de la personne qui y apparaît. Il y a des solutions, mais elles ne seront que temporaires, car l'univers du web possède les mêmes facultés que l'hydre de Lerne, ce monstre à plusieurs têtes qui se régénérait doublement lorsqu'on les tranchait. Si cette application disparaît, d'autres prendront sa place. Il ne restera plus qu'à perfectionner la technologie de détection de fausses images si on veut continuer de voir plus, de voir pour y croire. C'est la chronique Technopop de Catherine Matisse dans Québec Science, mai 2018.
C'est beau. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute avec nous. Merci à mes collaboratrices, Catherine Brunet.
Merci Hélène.
Merci Catherine. Merci Francine Forget.
Avec plaisir Hélène.
Merci Mathieu. Et Hélène Bédard vous dit au revoir. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.